La semaine écoulée aura été marquée au Vatican par la première rencontre entre le pape François et le nouveau chef de l'église anglicane, Justin Welby. Ils ont pu à cette occasion dénoncer la pauvreté et défendre le mariage traditionnel, tout en se félicitant des avancées dans le dialogue écuménique. Et l'archevêque de Canterbury nous confiait son sentiment à l'issue de la rencontre.
On sait bien que c'est un chemin plein de pierres et des rochers et des obstacles. Le but, la fin de ce chemin vaut bien les jours pénibles qu'il faut passer pour y arriver.
Cette semaine marquait aussi les trois premiers mois de pontificat du pape François, style décapant et paroles libres, parfois difficiles à gérer pour les communicants et journalistes présents au Vatican. Nous avons recueilli l'avis de Jean-Louis de la Vessière, de l'agence France Presse à Rome.
À mon avis, ce pape dit la même chose que Benoît XVI. Benoît XVI le disait peut-être plus finement, et donc il veut un peu bousculer les choses, il veut dire les choses plus franchement, plus avec cette langue feutrée qu'on entendait tellement souvent dans l'Église. Donc il y a cette volonté un peu de choquer, peut-être par des expressions fortes, mais effectivement, par ailleurs, ça pose des problèmes d'authenticité. Quelle est la force de chaque parole? À mon avis, et les cardinaux le disent, la parole n'est pas aussi forte quand il parle à Sainte-Marthe ou quand il fait un discours dans la basilique Saint-Pierre devant des évêques réunis. C'est pas du tout la même portée.
Direction Israël et la crainte pour des milliers de migrants africains en situation d'irrégularité. Des États africains seraient encouragés à les accueillir par l'État hébreu qui, en contrepartie, fournirait à ces pays une aide en tout genre. Le patriarcat latin de Jérusalem a fait part de son inquiétude. Nous appelions le père David Neos, vicaire patriarcal pour les catholiques hébréophones en Israël, et coordinateur de la commission des collaborateurs pastoraux engagés dans le travail auprès des travailleurs immigrés et des demandeurs d'asile.
Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce plan est annoncé. Il faut dire que tout autant que nous ne connaissons pas les détails et le nom du pays n'est pas mentionné, l'autre jour ils ont dit que ce n'était pas un seul pays mais plusieurs pays, mais tout autant que tout est secret, la réaction doit être mitigée. Je pense qu'on peut dire, bien sûr, que l'Église, en solidarité, en communion avec toutes les organisations de droits de l'homme, ne voit pas avec un bon œil à la déportation des gens qui cherchent ici la sécurité, la protection de leur pays.
À la faveur de la présidentielle en Iran, nous nous interrogions aussi sur la situation économique et sociale du pays. Désastreuse, nous disait François Toile, expert en géopolitique.
Des gens qui sont au chômage dans les grandes villes, dans les petites villes, qu'on vit très difficilement en Iran. À l'origine, c'est une crise sociale, à savoir que ce pays n'est plus en mesure d'assurer à sa population un niveau de vie convenable. Et ce n'est pas dû uniquement à l'embargo, c'est dû à la pression démographique.
Depuis le mois de mars, avec l'intensification du conflit en Syrie, le flux de réfugiés en Jordanie a fortement augmenté. Selon l'OHCR, il serait aujourd'hui 500 000 dans un pays qui compte 6 millions d'habitants. D'où l'augmentation des tensions entre réfugiés et population jordanienne, comme nous l'expliquait Cyril Roussel de l'Institut français du Proche-Orient à Amman.
Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Un, l'accès au logement. Deux, l'accès au travail. Et trois, le coût en fait de la vie qui pour eux est un problème, et notamment l'accès à l'eau, puisque dans ces gouvernorats du Nord, on a depuis bien longtemps une pénurie d'eau. L'eau est acheminée dans les villages parfois par camion-citerne, ça se paye très cher. Et donc là, on a des problèmes liés à l'eau également. Donc vous voyez une situation difficile qui crée des tensions avec les populations jordaniennes sur place, qui sont aussi face à une situation économique difficile, à un marché du travail qui est excessivement saturé, puis également une augmentation des loyers.
La nouvelle a littéralement ébranlé la Grèce et l'opinion internationale cette semaine, la fermeture sans préavis de la radio-télévision publique, le RT. Le parti du Premier ministre Antonis Samaras a décidé seul, mardi soir, de la mort de la télévision d'État, évoquant le manque de transparence et le gaspillage. Une réforme était certes nécessaire, selon Joël Dallègre, du Centre d'études balkaniques de l'INALCO, mais cette radicalité l'étonnait.
Ça ressemble quasiment à une provocation, mais c'est une provocation suicidaire. Ou alors, est-ce une façon de dire « Ah ben voilà, vous voulez que je supprime 2000 emplois, eh bien je vous les supprime et puis voyez un peu ce que ça fait ». Parce que c'est aussi vrai que mettre sans arrêt quelqu'un sous pression en lui disant « Voilà, vous avez 15 jours pour supprimer 2000 fonctionnaires, trouvez-les où vous voulez, ça nous est égal, trouvez-les ». Et recommencer ça tous les 6 mois, sans être particulièrement grand partisan de Samaras, je trouve que ce pauvre homme est soumis à des pressions absolument inimaginables depuis 3 ans. Ça ne va pas du tout redorer son image.
Au terme de l'audience générale mercredi, le pape François lançait lui un appel à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, qui cette année concerne l'exploitation des enfants dans le travail domestique. Il serait 15,5 millions d'enfants dans le monde concernés. Laurence Dubois, chargée de ce dossier au Bureau international du travail, nous expliquait la situation.
72% sont des petites filles qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées. Personne ne s'occupe d'elles, elles sont bien souvent traitées comme des esclaves et sont sujettes à toutes les violences possibles. C'est vraiment un domaine qui touche tous les pays, toutes les régions du monde, quelle que soit la situation de pauvreté du pays. La première recommandation est celle de demander aux pays qui ratifient notre convention 189 qui a été adoptée l'année dernière, d'appliquer cette convention au niveau national. L'autre demande, c'est bien sûr de veiller à ce que ces enfants soient protégés et également à renforcer tout ce qui est sensibilisation et mobilisation nationale pour que le phénomène et les lois nationales soient connues.